Système de radiocommunication voix en incendie, correction d'une omission. Toujours Lynn.
Oui, donc si vous vous rappelez, à la dernière séance, il y a un mandat qui était octroyé à l'entreprise Horizon Mobile pour la mise en place d'un système de radiocommunication voix qui inclut aussi l'achat d'équipements. Donc, on a relancé les services incendie pour s'assurer de faire une dernière vérification sur les équipements qui avaient été inscrits à l'appel d'offres. Et là, on se rend compte que le service incendie dans l'IE n'a jamais été consulté. Parce que, je vais faire mon mea culpa. Moi-même, j'étais convaincue que le service incendie de Anglier et Levallois-Chartres étaient regroupés, ce qui n'est pas le cas. Donc, comme le service incendie n'a jamais été impliqué dans la démarche, puis qu'ils ont des besoins, je voulais voir avec vous si c'était correct d'intégrer les besoins de ce service incendie-là, puis de prendre en charge les frais reliés aux équipements qui nous ont confirmé, donc ça monte à 11 945,56.
Question, commentaire là-dessus, Alexandre? Le propose, Alexandre Villette? Appuyé de Nico? Ça va pour tout le monde? Merci. Sécurité civile, positionnement demandé auprès des municipalités locales. Lynn, je te laisse la parole.
Oui, donc ce soir, là, ce serait. On demanderait ben, de façon officielle aux municipalités locales de se positionner par rapport au modèle à préconiser afin que celles-ci puissent être partagées, puissent partager officiellement leur vision en la matière. Ça va permettre après ça, ça va donner la légitimité des directeurs généraux de travailler sur le dossier. Les DG souhaitaient qu'il y ait un positionnement politique. On l'a vu dans d'autres dossiers, là, ça facilite grandement la chose. Donc, à soi, ce serait pour de prendre une résolution en ce sens qu'on va acheminer auprès des municipalités, qu'on puisse aussi nous revenir de façon officielle aussi.
Alors, on demande officiellement que les municipalités réfléchissent à un positionnement pour ça va, Luc, tu fais la proposition, s'appuyer de Lynn H. Merci. Merci beaucoup. Alors, on passe au point 10, aménagement et urbanisme. Point 10, c'est Chibou qui prend la parole. Chibou, entente, autorisation pour la signature de l'entente en urbanisme.
Oui, comme vous savez, depuis 2018, la MRC gère l'entente en urbanisme avec plusieurs. On a commencé avec 7 municipalités, on a fini avec 13 municipalités. Donc, l'entente est pour 3 ans et qui a pris fin officiellement au 31 décembre 2021. Mais en 2022, on a fait comme une année de transition avec un mandat d'extension d'une année pour les services à offrir. Et là, nous sommes à la fin de l'agenda de 2020, l'agenda portant l'extension pour l'année 2022. Donc, nous allons signer une nouvelle entente avec 12 municipalités, dont sur les 13 municipalités, une s'est retirée. Donc, nous allons poursuivre avec 12 municipalités qui ont montré leur intérêt à poursuivre dans l'entente. Donc, nous aimerions avoir l'autorisation. Conseil pour autoriser Mesdames Claire Boldic, préfète, et Madame Lynne Giron à signer l'entente interministérielle. Pour une réservation d'heure de 795 heures de la MRC.
Est-ce que ça va? Alors, conseil de la MRC, qui fait la proposition? Vincent, merci. Appuyé de Martin Lefebvre. Merci beaucoup. Chez vous toujours, autorisation pour le dépôt d'une aide financière au volet au FRR volet 4, coopération intermunicipale.
Oui, et avec l'entente qu'on compte renouveler aussi la possibilité au niveau du ministère d'aller chercher une aide financière. Donc, on a besoin de l'autorisation pour que la MRC puisse déposer une demande de subvention au niveau du MAMAJ, en plus qu'on soit aussi gestionnaire de l'entente.
Alors, est-ce que ça vous dirait, Jocelyn? Appuyez deux. Merci, Lynn. Et 10.3, ah, c'est moi sur révision, c'est moi qui dois parler. En fait, on l'a partagé déjà, vous l'avez déjà, le document d'orientation produit par la Fédération québécoise des municipalités. J'y ai travaillé personnellement, particulièrement sur tout l'aspect de la ruralité et des activités du secteur agricole. Mais la Fédération québécoise des municipalités a fait une très large, très, très vaste consultation sur ce dossier-là. C'est plus de 250 personnes qui ont participé et en Assemblée générale annuelle cette année, on a adopté les orientations qui touchent ce qu'on va discuter avec la ministre des Affaires municipales dorénavant, ce que le monde municipal négociera. C'est la révision de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui constitue les MRC. Et je pense que l'élément le plus fondamental de ça, c'est que l'aménagement, c'est un acte politique. Ce que ça veut dire pour tout le monde ici, vous l'aurez compris, c'est que quand on travaille les schémas d'aménagement, quand on intervient, ça s'en va au ministère des Affaires municipales, il y a des fonctionnaires qui le regardent, qui le corrigent, qui le modifient, qui nous le retournent. Ce qu'on dit, c'est que c'est un acte politique et que ça doit revenir aux gens qui sont sur le terrain, politiquement parlant, d'adopter et de développer les schémas d'aménagement et de réfléchir à l'aménagement du territoire. Quand on dit ça, on dit aussi à des organisations comme la Commission de protection du territoire agricole, on identifie quelles sont les priorités qu'on veut voir adoptées. On parle aussi de forêts de proximité. On parle aussi de villégiature et de tourisme. Alors, c'est un document d'orientation qui donne le ton sur les positions qui seront défendues au nom du monde municipal par la Fédération québécoise des municipalités. C'est important. Je souhaite que vous en preniez connaissance. Si vous voulez, on fera une séance de travail qui sera consacrée à ça parce que c'est l'essence même. Le mandat le plus important que la MRC a, c'est l'aménagement du territoire, l'arrimage entre les différents usages sur le territoire. Et on a souvent été confrontés à des planifications qui sont faites en agriculture, au niveau de la forêt, au niveau des ressources naturelles, au niveau de la villégiature, au niveau du tourisme, qui ne tiennent pas compte de ce que nous, comme élus municipaux, on voit sur le terrain. De ce que ceux qui ont écrit les schémas d'aménagement ont planifié comme développement de territoire. Le meilleur exemple, c'est peut-être celui de la Commission de protection du territoire agricole où une municipalité veut une exclusion de zonage à des fins de développement économique, par exemple, et que la Commission du territoire dit à cette municipalité-là, ailleurs dans la MRC, il y a des terrains disponibles. C'est le genre d'incohérence qu'on veut plus voir arriver. Alors, dans le contexte, le document d'orientation cible bien comment on se positionne comme milieu municipal. Et je le répète, je vais rester très active sur le dossier, tant pour les communautés rurales que pour la réflexion qui porte sur le territoire agricole, qui rentre dans ce qui sont deux compétences que je porte au niveau de la FQM. Mais je suis tout à fait disponible et disposée si vous avez des préoccupations particulières dans le cheminement de ce dossier-là, si vous avez des enjeux que vous voulez partager, je suis tout à fait disposée à les entendre, à les recevoir et aussi à les porter ou à les faire porter par les collègues qui seront plus compétents pour le faire. Mais c'est un document d'orientation qui est vraiment important. Alors, peut-être que vous n'avez pas de questions ce soir, mais dans le courant des prochaines semaines, des prochains mois, si ça peut arriver, n'hésitez jamais à m'interpeller là-dessus.
Un commentaire.
Vas-y, Luc.
Tes 8 pistes de solution, là. Prends ton numéro 7, bien en premier. Ça commence par là. Il faut que ces rangs-là respectent vos particularités locales qu'on lit comme région.
C'est bien vrai.
Qui vont comprendre cette phrase-là, ben écoute, en plus, là, ça a pris le coup de la gang. Ils vont peut-être comprendre que ça ne marche pas de même, la vraie vie.
OK. Alors, on l'a bien entendu. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non, on passe au point suivant. Le point 11, adoption de la politique de soutien aux projets structurants. C'est la politique qui nous oriente année à chaque année pour appuyer des projets qui sont soumis au FRR. Je juste vous signaler qu'on avait une politique très détaillée et c'était une discussion pour les redditions de comptes et pour les, on va le dire comme ça, les papiers, la paperasse, tout ce qui était bureaucratique. C'était toujours un peu complexe parce que notre politique était très détaillée. Alors, vous avez une politique peut-être un peu plus globale, mais aussi des guides de fonctionnement qui, eux, seront plus détaillés. Donc, je laisse Chibou faire la présentation.
Oui, juste pour compléter, Mme Bolduc, vous avez deux documents qui sont contractuels, qui sont en lien avec la délégation de la gestion des fonds aux régions ruralité qu'on a avec le ministère, le MAMACH. Donc, on aimerait votre autorisation pour l'adoption de ces deux politiques. De la politique ainsi que de son cadre d'application. C'est, comme je l'ai dit, donc c'est deux documents qui sont contractuels, hein, en plus que de nous servir de guide au niveau du comité GAM dans la sélection des projets ou l'octroi de l'utilisation des fonds.
Avez-vous des questions, des commentaires, Alexandre?
Question en page 5.
Guide ou de l'info?
Guide. On parle du cas exceptionnel où est-ce qu'on pourrait donner des sommes à une entreprise privée. Puis à ce moment-là, le pourcentage est de 50 %. Est-ce qu'on voulait l'uniformiser avec le 60 %?
Non, c'est le cas de
le ministère, ça, oui.
Le ministère qui ne permet pas plus.
Qui ne permet pas. Pour les autres types d'organismes qu'on peut dépasser.
Oui.
C'est bon, me brûlait.
Puis on ne peut pas aller dans de façon exceptionnelle, de façon unanime et selon des cas d'exception, financer une entreprise privée. Et c'est aussi ciblé là, sur quoi on peut intervenir. Fait que c'est.
Ça n'arrivera pas souvent.
Je n'ai pas vu ça depuis 5 ans là, ici. Fait que, puis je pense qu'avant, ça n'avait pas été avec l'autre fonds dont on disposait, c'était le PAT rural, c'est ça? Le FDT non plus, ça n'avait pas été. D'autres questions? Non, est-ce que vous êtes prêts à adopter les deux politiques? Et la politique et son document d'orientation? Opposant secondaire? Alexandre Vincent? Merci beaucoup. Point 12, Chibou, MIFI. Adoption du cadre d'intervention du comité de gestion de suivi pour le plan d'action accueil et établissement durable des nouveaux Témiscamiens.
Okay. Nous avons reçu, en fait, comme vous le savez, au printemps passé, une subvention du MIFI pour la réalisation du plan d'action en lien avec la politique accueil et établissement durable des nouveaux Témiscamiens. Donc, dans le cadre de cette entente qu'on a avec le MIFI, nous devons aussi mettre en place un comité de suivi et d'évaluation au niveau de la MRC afin de veiller aussi à la gestion et aussi à l'application, au développement des projets qui répondent au plan d'action. C'est en ce sens que, vu que nous, déjà au niveau de la MRC, on a un comité qui traite de l'attractivité accueil et rétention au niveau de la MRC. Donc, on souhaite que le Conseil autorise à ce que ce comité de la MRC puisse agir en tant que comité de suivi et évaluation pour l'entente qu'on a avec le MIFI.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ça va? Alors, proposeur?
Et puis le MIFI, c'est ça avec nous autres. Que...
Oui, mais moi, c'est...
Si on déroge, ils vont nous donner un petit top.
Oui, la taloche va voler. Donc, ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Bruno, merci. Appui de Vincent, merci. Je vais finir par vous nommer. Le point 13, campagne 2023, autorisation pour appel d'offres sur invitation pour la co-idéation de la campagne 2023 au niveau de notre stratégie d'attractivité chez vous.
Effectivement, avec les deux campagnes qui sont passées, qui sont déroulées sous la notoriété du territoire du Témiscamingue, et puis votre volonté aussi de pousser pour l'année 2023 de la campagne. Et donc, nous aimerions être accompagnés par une firme en communication pour nous aider aussi dans la co-idéation de la campagne. Donc, on aimerait avoir l'autorisation pour aller en appel d'offres sur invitation afin de sélectionner une firme.
Ça va pour tout le monde? Luc? Nico, merci. Gestion de matières résiduelles. Alors, Cathy, point 14.1, rapport d'activité.
Oui, pour le rapport d'activité, je ne sais pas si vous avez regardé ces indications, mais si vous questionnez pourquoi les déchets ont monté en flèche en novembre, en fait, c'est en grande partie parce qu'on a reçu beaucoup, beaucoup de matières en provenance des relais des concentres locales, puis beaucoup de bois qui a été à l'enfouissement parce que lors du dernier cache, on avait fait une recommandation d'envoyer du bois à l'enfouissement étant donné qu'on déborde. On ne sait plus où le mettre, donc on a envoyé plusieurs voyages de bois, puis on a reçu des relais d'éco-centre, trois fois plus de matières qu'on en reçoit habituellement, qui ont toutes été à l'enfouissement, donc c'est pour ça que le mois de novembre a grimpé comme ça en flèche. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions.
Monsieur Cardinal?
Quand on dit à l'enfouissement, c'est où ça?
Chez Méditech à Rouyn-Noranda.
Ah, OK.
Monsieur Drouin?
Le bois qu'on envoie en enfouissement, là, c'est le bois qui a pas de peinture.
On appelle le bois urbain.
C'est le bois
qui a
de la peinture et du vernis et tout ça.
Naturel, on le valorise sur notre plateforme de compostage. Lui, qui n'est pas problématique. C'est vraiment notre autre tas de bois que lui, on ne sait pas quoi faire avec. On attend l'incinérateur, mais là, c'est beau attendre, mais on n'a plus de place pour l'entreposer.
Pour l'entreposer.
Et on voulait l'envoyer. Pourquoi qu'on voulait envoyer quand même un certain volume avant les fêtes? Parce qu'à partir de janvier, le coût des redevances va augmenter. Donc, ça va nous coûter encore plus cher en 2023. Fait qu'on voulait faire un petit bout avant l'hiver.
Luc?
Rappelez-vous qu'au dernier conseil, je pense qu'au dernier conseil, au CAIR, on s'est dit qu'il faut regarder l'entièreté du CAIR, on va regarder l'entièreté de ce qu'on fait avec les produits. Comment qu'on pourrait regarder autrement? Parce qu'il faut faire réduire ces coûts-là. Indépendamment qu'on ait un incinérateur ou non.
Exactement.
Absolument, se mettre en mode action parce que là, on a quasiment 15 ans de fait, là, puis il faut renouveler notre. Il faut faire d'autres choses parce que.
On n'évolue plus.
Aussitôt que Meditech va remonter un peu, ça va remonter encore en flèche. Là, le prix du fioul va être très cher cet hiver. Laissons continuer à envoyer du bois à Rouen, à Enfoui, ça va sur deux bords. Il nous charge, puis ça nous coûte plus cher d'y aller le venir. Ça tient un peu à la route. Là.
Il demeure aussi que la réduction à la source, il y a des efforts à faire de ce côté-là aussi.
Pour regarder l'entièreté.
Ta question, par exemple, oui, tout à fait.
Pour regarder l'entièreté du dossier au complet. Pour se mettre au travail là-dessus. Là.
Je pense que c'est essentiel. D'autres questions pour Cathy, pour le rapport? Alors, on va passer à 14.2, autorisation pour l'octroi d'un contrat pour l'installation de la structure EasyKit. Cathy, toujours.
À l'incendie de notre centre de transfert le 5 novembre dernier, on a acheté, ça s'appelle une structure EasyKit, un genre de mini-don pour entreposer les matières recyclables. Donc, on a acheté l'équipement, puis on a vérifié avec 8 entrepreneurs de la région. Il y en avait seulement qu'un qui était disponible à court terme pour installer la structure. Puis, il nous faisait une offre montant forfaitaire de 130 000 pour installer le tout, plus taxes ou un coût à l'heure. Mais, donc là, à la séance du CA du 7 décembre, les élus ont décliné l'offre de cet entrepreneur-là, considérant que c'était trop dispendieux. C'est bien beau que c'est quand même remboursé par les assurances, là, mais quand même, c'est quand même un coût assez volumineux. Puis, à ce moment-là, moi, j'avais fait part aux élus qu'on avait été approché, mais en fait, on avait eu lui dire qu'il y avait une entreprise hors région qui était prête à le faire à beaucoup moins cher. Donc, on a fait en fait une demande, une préautorisation au conseil le 8 décembre dernier parce que malgré tout, c'est sûr que c'était moins cher, mais ça dépassait quand même les 25 000 de taxes incluses. Donc, aujourd'hui, ce serait vraiment juste de confirmer l'octroi du contrat d'installation de la structure exécute à l'entreprise Équipement TNO au coût de 27 594 taxes incluses, donc c'était 24 000 plus taxes.
Qui avait fait la proposition?
C'était Simon, puis t'as appuyé de Bruno, mais là, Simon n'étant pas là, je proposerais que ce soit Bruno qui propose que ça soit appuyé par Alexandre. Que je suis là, la réception de mes courriels.
De tes courriels, OK. Donc, ce serait proposé par Bruno, appuyé par Alexandre. Est-ce que tu es d'accord?
Oui, oui, c'est, oui. J'ai répondu à peu près en une minute, je pense.
Que... Est-ce que tu es en cours, d'accord?
Ouais. Alors, Bruno Boyer.
J'avais une question.
Oui.
Sur le 25 000, au niveau de la MRC, on ne peut pas dépenser plus que 25 000 parce qu'on. C'est-tu différent?
Le CA ne peut pas autoriser une dépense de plus que 25 000.
Est-ce que c'est quelque chose qui est changeable par règlement ou c'est dans la loi, ça?
Non, c'est changé. C'est par règlement?
Oui.
Changé par règlement?
Mais ça se change par règlement?
Oui, c'est parce que le CA. Ah, vas-y, Samy. Vas-y, Samy.
En fait, c'est le code municipal qui, dans son article, établit la dépense maximale que le CA peut autoriser. C'est 25 000. Il peut pas autoriser plus que les 25. C'est-à-dire que le conseil ne peut pas déléguer au CA une dépense qui dépasse les 25
000. Oui, OK. Mais sauf par règlement, le conseil peut le faire parce que les municipalités, on est rendu à 100.
105.
Non,
c'est pas la même affaire.
Okay. Mais c'est bon pour la. J'appuie.
J'avais déjà noté. Merci, ça va pour tout le monde. Alors, on passe au point 15, Fossilarium à Notre-Dame-du-Nord. Nico.
Dans le fond, on a vu le jour de la marmotte encore une fois. Là. Le gouvernement a encore coupé son aide financière au Fossilarium. Ce que je vous demande encore à ce soir, c'est une résolution pour une demande d'appui financière au ministre de la Culture. Encore une fois, et là, sinon, ils vont couper les vivres au Fossilarium.
Puis on a eu quand même deux discussions avec le ministère de la Culture. Ça a été très rapide d'obtenir le 8 décembre, j'avais une réunion avec le. Vous vous souvenez que c'était au Costa Rica? Le 8 décembre, j'avais une réunion avec le ministère de la Culture, puis le 19, on avait une deuxième rencontre, puis ils sont tout à fait disposés à travailler pour que le Fossilarium puisse poursuivre ses activités. Maintenant, la résolution d'appui que le conseil peut apporter pourra aussi, parce que c'est pas seulement une question de Fossilarium, c'est aussi une question de contexte du programme. Alors, notre résolution pourrait dire qu'on appuie le Fossilarium pour l'obtention de son financement et également pour que les normes du programme soient adaptées à des musées qui ont des réalités telles que celles qu'on rencontre dans les communautés rurales. Je te l'écrirai.
Non, c'est pas ça, c'est parce que...
On avait déjà fait une.
Ouais. Oui, mais c'est parce que le bureau, Claire, les attachés politiques disaient d'attendre après fin janvier pour produire la résolution parce que...
Ils disaient que nos interventions pourront se faire plus tard en janvier, effectivement. Mais on peut adopter la résolution dès maintenant. On la fera parvenir plus tard là, au moment de la discussion parce que qui sera important, c'est la discussion sur le renouvellement du financement, du programme de financement. Mais s'il faut attendre, on pourrait l'adopter plus tard, mais parce qu'effectivement, au mois de juin, on avait appuyé le Fossilarium dans ses démarches. Ça te va-tu si on le fait en janvier, janvier-février? On le fera en février? Tu préférais?
Ben,
oui, c'est ça la discussion aussi.
On avait
que nous, on fait des représentations à ce niveau-là. Okay. On adoptera la résolution en février.
Est-ce que... On prendra la cause du 25 janvier, demain, on
fait. Attends un peu, là, moi.
Les gens du bureau, ils avaient dit le dossier, il est comme réglé, là. C'est juste qu'ils attendent d'avoir.
J'attendais d'être à huis clos à la fin de la rencontre pour le dire. Mais effectivement, ce qu'on avait dit.
Rewind.
Écrire une lettre au ministre. OK? Écrire une lettre au ministre une fois que la situation aura été établie avec le ministère.
C'est ça.
Et fin janvier 2023, ça devrait avoir été fait. Alors, on écrira au ministre fin janvier. La résolution d'appui, c'est vraiment qu'on accompagnera le fossilarium dans les démarches pour que sa situation soit reconnue à l'intérieur des programmes. Ça te va-tu, ça? Ça va être conforme? Ça va? Qui propose? Jocelyn Martin, merci. Alors, suivi du comité administratif de la MRC. Ah, je vois qu'on a mis le projet.
Mm-hmm.
Et vous constatez que je n'étais pas là? En l'absence de la préfète. Alors, est-ce que vous avez des questions sur les sujets qui ont été abordés? Donc, on passe au point affaires municipales, médaille régionale. Alors, je vous demande une résolution fantôme, comme on a l'habitude de le faire, pour présenter les deux candidatures dont on a convenu en séance de travail au prix de la médaille régionale de la conférence des préfets. Je recevrai une proposition à cet effet-là. Nico Gervais, appuyé de... Merci. Le point, est-ce qu'il y a d'autres points affaires municipales que vous souhaitez soulever? Sinon, je vais au point affaires nouvelles, Hydro-Québec. Bruno.
Moi, je voulais apporter ce point-là à soir à Hydro-Québec. Hier, on a eu une panne de pause, c'est pas une panne de courant total, là, mais dans l'Est, il manquait une phase. Peut-être deux, je ne sais pas, mais en tout cas. Puis, ça a apporté beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que toutes les maisons sont rattrapées au réseau trois phases. Tu sais, j'ai des gens qui m'ont mentionné que le frigidaire, la carte de le frigidaire a sauté, carte électronique. On a eu, nous autres, à la ville de Belle-Terre, à notre plateforme pompage, on a eu un problème avec nos ponts. On ne sait pas, je ne suis pas capable de partir avec notre système. À l'usine, qui est au bout du réseau en plus, comme on a Flywood, on a eu trois pompes qu'on a eu des problèmes.
Okay.
Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de décembre, il y a eu beaucoup de pannes de courant, même général à Gardeur de Simiscamingue. Puis, ça, on dirait que c'est tout à fait facile pour le site Infopan, c'est abri d'équipement, abri d'équipement, abri d'équipement. Mais, tu sais, à un moment donné, le réseau est-tu rendu désuet? Tu sais, on parlait du réseau électrification du réseau routier, tantôt, là. Ça ne fera pas drôle si on manque d'hydro dans la nuit, on ne peut plus aller travailler parce que
nos véhicules ne font pas,
c'est ça. Mais tu sais, je pense que c'était bien bon d'envoyer
une lettre.
Une lettre à Hydro-Québec. Je pense que c'est une opinion, là. Je pense que.
Vous êtes d'accord que la MRC s'adresse à Hydro-Québec pour souligner la problématique et demander que la prévention, l'entretien préventif accéléré soit fait?
Et on parle des réponses à ces questions.
Avoir des réponses. Est-ce que vous souhaitez qu'on demande une rencontre avec Hydro-Québec?
Je pense que ça serait pas mauvais.
Ça pourrait être une bonne idée pour la séance de travail.
Et on parlait de sécurité civile tantôt. Là. C'est rendu qu'il faut que tous les résidents soient obligés d'avoir une génératrice ou quoi que ce soit, parce que des fois, on manque d'hydro 10, 12 heures, 15 heures. Ça vient. Oui, on est débrouillard, mais ça devient problématique un peu. Là. Surtout plus ça va, plus qu'on s'en va vers le chauffeur électrique, avec les thermopompes, et ainsi de suite. C'est comme, en tout cas, je pense que...
Oui, c'est une lettre, ils peuvent répondre sur la lettre, bris d'équipement. Hein.
On demande une rencontre. Qu'est-ce que tu veux demander, Luc, de plus?
Non, il y aurait bien peu qu'ils me répondent la même affaire que sur le site. C'est un bris d'équipement sur la lettre, ça serait plate qu'ils nous répondraient la même affaire que le site. Hein.
Tu as bien raison. Ouais. Alors, il faudra être plus précis dans la lettre, parfait. Alexandre?
Ben c'est ça. Est-ce qu'on demande un rapport détaillé des pannes qu'il y a eu?
Oui.
Parce que, tu sais, s'il l'explique par écrit, peut-être qu'on pourrait éventuellement comprendre quelque chose.
Un rapport détaillé et une rencontre avec Hydro-Québec? Moi, ça m'a surpris. J'arrive de Baie-Comeau, là. Puis quand je suis arrivée au Témiscamingue, Baie-Comeau, tu es à côté de Manitang, mettons, là. Mais quand tu arrives au Témiscamingue, c'est étonnant.
Ouais.
Même Québec, je n'avais pas connu ça. C'est étonnant. Vous avez raison.
On est quand même au Témiscamingue, tout au proche de la rupture. Hein. On n'est pas, on l'a pas de. En tout cas, le surplus vient pas du type, là.
Mais, pas encore.
Trois industries majeures qui sont tout haut sur la limite. Puis regardez, nous autres, on fait longtemps qu'on reste à Berne, des lumières, là, des lumières. Oui, bien, c'est les lumières. Là. Moi, je peux te dire quand les moteurs décollent de l'usine. Mais un homme qui est à ça, qui reste à Ville-Marie, qui dit que des globes de maison, ils changent vraiment ça à Ville-Marie. Mais nous autres, on change des sorties de globes de galerie, là, aux semaines. Ta basse tension en vient, ton globe il réchauffe, puis barnet juste. Le globe pète. C'est à Toho de tellement meilleur, mais on est Toho sur le point de proche de la rupture. Fait que, le réseau, il n'y a pas rien que l'équipement. Là, c'est qu'à un moment donné, il manque peut-être de jus dedans aussi. Là, la distribution.
Il y a deux choses. Il y a des tables.
Oui.
Mais c'est la baisse de tension.
C'est ça qui est problématique.
Il y a la vaccination, puis il y a des congélateurs qu'on est obligé d'arrêter parce que la nuit, il y a trop de baisse de courant, les congélateurs capotent. On est obligé d'en sortir. Oui, oui. Il y a trop de baisse de tension avec les baisses dans la nuit. Là, je finis ma vie.
C'est bon, les soudeurs, avant.
Ce qu'on va demander.
Deux éléments importants, ça, c'est les coupeurs, mais okay. Aussi les baisses de courant
qu'on a. Là, je n'écrirai pas la lettre demain. On s'entend. Je vais la préparer. Elle va partir au début janvier. De toute façon, je l'enverrai demain. Il ne le lirait pas. Hein.
C'est quoi un élément statistique? Firme Stalibel à Ville-Marie, un ordinateur qui a toutes les baisses de courant programmées à leur site.
Combien ils vendent?
C'est sûr qu'il n'y a pas de requête. Mais moi, je l'ai vu, je me l'ai montré parce que mes bureaux étaient là quand je travaillais dans le réseau. Il m'avait montré toutes les baisses d'électricité parce qu'on avait de la misère, nous, avec nos systèmes informatiques. Puis c'était ça le problème. Il m'a montré dans la nuit là, toutes les baisses de courant qu'il y a à Ville-Marie. Il y a un système, les autres, installé là, tout le temps. Là, puis on voit carrément les baisses. Là. Et donc, il y a beaucoup de jeux.
Puis,
c'est ça qu'il y a bien des gens que les appareils vont sauter. Il y en a qui vont faire monter.
Ils sont là bien niaiseux présentement. Là. On est dans le temps de Noël. Je vais juste regarder dehors là, comment il y a de lumière. Ça prend du courant. C'est surprenant comment ces lumières-là prennent du courant. On est tout haut. Garantis qu'on est tout haut sur le bord, nous autres. Hein. Dans les bouts de réseau, Témiscamingue, le bout du réseau, là. Ça en prend un peu du jus à Tembec. Hein. L'ancien Tembec, ça en prend un peu.
Dans le contexte, on écrit Hydro-Québec et on demande un rapport détaillé. On parle des baisses de tension, puis on demande qu'ils viennent rencontrer les membres du conseil. Puis, pas juste le représentant des relations avec la clientèle, là, un ingénieur. Il va être capable d'entendre les revendications que vous avez. Je pense que c'est nécessaire. Puis merci pour le cue. On va demander, Stéphanie Bell, s'ils peuvent partager. Bon, combien le vendrait-il, ce document-là? Bien, tu sais, écoute, on va le demander. Merci de l'information.
Le nombre de contrats qu'on lui donne, les municipalités, pour les faire gratis.
Ils vont nous le faire gratis. Je vais leur dire ça.
C'est.
OK. Alors, on payera le papier. Ça va pour ça, Bruno? Oui. Oui. Attends un petit peu.
OK. Je vais juste ajouter dans la nouvelle, deux informations. Notre usine de déroulage va recommencer le 9 janvier.
OK.
Je ne sais pas si c'est une dépression, ça fait du bien ou c'est la température qu'on a eu des bio. En tout cas, peut-être un mélange des deux. Ça a été très encourageant pour
9 janvier.
Pour ma population parce que il y en avait. Il y avait 80% qui n'avaient plus de chômage à la fin janvier.
OK.
En tout cas, ça a été très apprécié. Deuxième affaire, heureusement, je peux l'annoncer, possiblement fin 2023, nous allons avoir de l'eau potable à Belle-Terre, finalement. Le projet est accepté à presque 99% au gouvernement.
Et c'est-tu un projet 95. Comme Anglier? Comme...
Non, ça va être une station comme de filtration UV.
Futur client.
Comme à la tulipe. Oui, comme à la tulipe, la même affaire, sauf plus moderne.
Ben oui, bien sûr, dans le 20 ans.
On pensait qu'on aurait eu un enjeu avec la filtration, le coût de la vie. Finalement, non, ça a été... Oui, le projet a augmenté, mais en même temps... ne faut pas oublier qu'on risque d'être subventionné quand même à 100%. Fait que, c'est une bonne nouvelle qu'on a eue, je suis bien content. Et probablement qu'en janvier ou février, toutes les mises en. La construction de tout va être faite. Ouais, les appels doivent se chercher, merci. Et en tout cas, si on est chanceux ce printemps, là, tout, ça commence.
Je suis bien content pour vous autres. Ouais. Parce qu'on va peut-être vous avoir comme futur client.
Mario, il y avait.
Quand elle brise l'équipement à Hydro-Québec, là, puis on brise l'équipement chez nous, là, Hydro-Québec sont responsables. En tout cas, dans le temps, c'était ça. Parce qu'on appelle Hydro-Québec, ils nous envoient un formulaire pour on marque la date, la brisée de la part-là, ils nous remboursent. Mais moi, ils devraient rembourser des moteurs électriques.
Bon. Est-ce que c'est vrai pour les entreprises?
Ça existe encore.
C'était vrai pour les entreprises, mais est-ce que c'est vrai pour le domestique?
Oui, moi, c'était vrai pour le
domestique. OK.
Ça existe encore, mais on est.
Validé.
C'est arrivé, puis quand il y a eu un bris, les autres, ils savent qu'il y a un bris. Bon, ils remboursent l'équipement.
Moi, il y a une personne, si tu me permets, Claire, qui a fait la demande, là, 3 ans pour un réfrigérateur, puis ils ont fait comme réponse, il est plus vieux que 5 ans, il ne passe pas.
Ah, d'accord.
Faut qu'il soit deux. Vraiment. Oui.
C'est le gros bout du bâton.
Oui, parce que c'est le gros bout du bâton, puis les assurances ont payé beaucoup de plateaux de crevettes hein, à un moment donné. Est-ce qu'il y a d'autres points dans l'affaire nouvelle? Moi, je voulais juste souligner que le.
C'est ça, je pense que.
Vas-y.
Je voulais le souligner là, qu'on s'enligne pour avoir une réouverture du restaurant. En fait, il y a eu une vente du restaurant.
Ben, c'est fait. Là.
À Moffett, là, ça devrait se concrétiser, je pense, là, dans les premiers, au mois de janvier. Donc, une réouverture possible au mois de février dans ce coin-là. Mais on est très content que ça se passe. Je le rappelle, là, c'est le seul. Il n'y a plus de restaurant en ce moment en opération dans l'est du Témiscamingue. Le plus proche étant à Lorainville, à 54 km, en tout cas de chez nous, je l'ai mesuré. Puis, fait que la poutine, quand elle arrive, tu prends la sauce à part. J'arrive, si tu peux penser, tu prends la sauce à part. Mais donc, c'est super le fun. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé à ça. Je pense incluant la SDT, tout ça. Là. Donc, tout le monde qui a réussi à travailler pour créer l'occasion d'affaires intéressantes pour qu'on retrouve un service de proximité. Là. On est super content de ça.
La municipalité a investi aussi dans le.
Oui, entre autres. Puis, mais tu sais, il y a beaucoup d'autres programmes aussi que cet entrepreneur-là a pu avoir accès là, au niveau de relève pour entreprises, stratégies, des choses comme ça. Puis, l'entièreté des choses ensemble. Là. A rendu ça possible. Fait qu'on est très content.
Alors, mois de février pour un club sandwich. Hein, Aline? On va aller.
Oui, on va s'en.
Alors, il n'y a plus d'autres sujets dans l'affaire nouvelle. Est-ce qu'il y a des questions de l'assistant?
Des sandwichs.
Merci beaucoup. Levée de l'Assemblée, 20h59, c'est proposé par Bruno, appuyé de Jocelyn. Merci beaucoup.